T'sais, ça pourrait aller dans n'importe quel sens. Je pense qu'il va y avoir des priorités au niveau des lanceurs partants, mais parmi les joueurs d'opposition, Alain, ça peut aller dans n'importe quel sens. Alors soyez pas surpris que chaque nom, même un Cody Bellinger encore de retour, son nom peut refaire surface avec les Blue Jays. Fait que c'est ça qui va donner un hiver pas mal intéressant.
Écoute, moi, ma priorité là-bas, ce serait le lanceur partant, le gros lanceur partant numéro 1.
En jeu! Deuxième prise! Compte complet!
Le balado compte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles. Fier partenaire de votre passion. Et Lester's, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Voici vos animateurs, Alain Huzreau et Marc Griffin.
Bienvenue à Compte complet, Alain Huzreau et Marc Griffin. On n'est pas tout à fait en vacances d'ailleurs, ça bouillonne 12 mois par année dans le monde du baseball. Donc, on est avec vous pour parler un petit peu de l'actualité baseball. Avant ça, Marc, je te demande, est-ce que tu es revenu de ta série mondiale?
Écoute, je la trouve encore un peu cruelle du côté des Blue Jays. Écoute, Alain, tu n'as pas regardé ça de n'importe quelle angle. Tu peux pas passer plus proche de remporter une série mondiale. Varsho l'avait au bout du bâton, une balle en jeu, c'était terminé. Rappelle-toi le jeu de Connor Falefa avec sa course du troisième au marbre. Je veux dire, c'est quelque chose qui peut faire mal, mais en même temps, Alain, j'ai l'impression que les Blue Jays vont être très agressifs cet hiver. On aura la chance d'en rediscuter là, ouais, durant le balado, mais c'est ça. Écoute, les Dodgers l'ont gagné, je peux pas leur enlever ça. Mais je trouve ça, tu sais, j'imagine dans l'organisation des Blue Jays, dans les bureaux, on doit se dire ça n'a pas d'allure.
Marc, toi aussi, tu as eu des commentaires d'amateurs, là, puis je pense qu'il y a 56 façons et sur lesquelles on dit ils auraient gagné s'ils avaient fait ci, s'ils avaient mieux couru, moi, je peux te dire 4 en 26, ça c'est quoi? Ben, c'est le rendement avec des coureurs en position de marquer dans les deux derniers matchs. Tu peux tourner ça de bien des façons, Marc, puis te dire, ben oui, il aurait pu gagner de 56 000 façons, puis malheureusement, ils n'en ont pas trouvé
une. Alain, mettons que les Blue Jays l'emportent, là. Mais toi, du côté des Dodgers, alors on n'a pas fait ci, si on avait fait ça, tu sais, je veux dire, il y a eu des jeux du côté des Dodgers où c'était, tu sais, je veux dire, surprenant, là. Tu regardes la façon, parce que Ernie Clement a frappé cette balle-là, pourquoi les voltigeurs jouaient rapprochés? On n'a pas tant frappé que ça là, du côté des Dodgers. On avait commencé à blâmer des gars. Bon, fait que, tu sais, ça tenait à pas grand-chose. Évidemment, ils ont gagné, fait qu'on n'a pas se poser la question là du côté des Dodgers, mais ça aurait été la même affaire. Tu sais.
Ben oui. Bon, c'est fait. On est rendu dans l'entre-saison. Il y a presque autant d'actions que durant la saison régulière, Marc. On va commencer par ce qui est tout chaud. Au cours des dernières heures, il y a eu une transaction. C'est quand même une transaction importante entre les Orioles de Baltimore et les Angels de Los Angeles, les Angels qui ont laissé partir un gars qui a de la puissance. Les Angels ont frappé beaucoup de coups de circuit au cours de la dernière saison, Marc. C'est une des équipes qui en a frappé le plus. Malheureusement, pas beaucoup de coureurs sur les sentiers quand on frappait de la longue balle. Taylor Ward s'en va à Baltimore en retour de Grayson Rodriguez. C'est pas parce qu'on a un surplus de lanceurs partant chez les Orioles. Remarque, il y en a quelques-uns qui sont revenus tardivement en saison. Est-ce qu'on se fie là-dessus? Il faut croire que oui. Moi, c'est la façon dont je l'ai vu, Marc. Les Angels ont mentionné surplus de coups de circuit, sans coureurs sur les buts. Ça fait combien d'années qu'on a besoin de lanceurs qui lancent des manches, là? Mais c'est ça l'affaire. C'est que là, on jette les dés chez les Angels.
Écoute, c'est sûr que si tu regardes le besoin de chacune des équipes, c'est une bonne transaction. Tu l'as dit, là. On a besoin de manches lancées. On a besoin d'un peu de puissance là, du côté des Orioles. Ça, c'est correct. Je regarde Taylor Ward, devient joueur autonome après la saison prochaine, Alain.
Oui.
Alors que tu échanges un lanceur de 26 ans. Je le sais qu'il a été blessé. Moi, j'ai plus l'impression qu'on n'aime pas. En tout cas, ça, c'est vraiment une impression. Là. J'ai pas de preuve de rien. Mais tu sais, peut-être qu'on voit mal le fait. Est-ce qu'il est pas rétabli comme on pensait? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? De toute façon, bon, peu importe. Mais tu comprends là, que si Grayson Rodriguez est en santé, Alain, il est le numéro un.
Ah oui.
Fait que...
Oui.
Tu sais, alors, je sais pas. Je pense qu'il pourrait avoir un avantage là, du côté des Angels si jamais Rodriguez se développe comme il se doit. On verra ce que ça va donner, mais ça m'a surpris. Moi, ça m'a surpris. Pas en lien avec les besoins de chaque équipe, mais ça m'a surpris de laisser aller un Rodriguez. Selon moi, il y a peut-être des informations qui nous échappent à ce niveau-là. Pas que Ward n'est pas un mauvais joueur du tout, mais le fait qu'il devient évidemment joueur autonome après la saison 2026. Est-ce qu'on échange un lanceur de 26 ans pour un joueur qu'on pourrait avoir seulement une saison? C'est là que ça accroche un petit peu de mon côté.
Oui, je pense que les Orioles n'ont pas fini de bouger, Marc. Il y a un jeune ou deux qui va partir. On en a quelques-uns. Trois de leurs quatre premiers prospects, Marc, sont sur le bord d'être un baseball majeur. Bassaio, Marc, on l'a déjà donné un contrat de plusieurs saisons. Lui, il va être avec l'équipe l'année prochaine. Au champ centre, on va donner des chances à Bradfield, je pense, Enrique Bradfield, qui n'a pas encore joué dans le baseball majeur, mais qui tout près, Marc. Sa rapidité, son jeu en défense et son bras sont ses principales qualités. Donc, va probablement remplacer Cedric Mullins, qu'on a laissé aller. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on a du matériel. Puis il y a un gars ou deux qui va partir, moi, j'ai l'impression. Bassaio, je ne suis pas sûr que son avenir est comme receveur. Il y en a qui pensent que Adley Rutschman pourrait être disponible parce que Bassaio. Bon, ce que tu as vu de Bassaio, Marc, c'est pas sûr, hein?
Ben, écoute, tu l'as dit, on lui a donné un contrat. On a vu des choses, certainement, du côté de Baltimore. Alors, ouais,
comme frappeur.
Exact, exact. Alors, on va laisser un peu le temps aller. Je pense pas qu'on devrait échanger Rutschman tout de suite, là, avec ce qu'on a vu. Mais moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien quand même que Baltimore décide de bouger. Alain, on a de toute évidence un très bon noyau. Il faut faire quelque chose avec ça. Il faut que ça produise quelque part. J'ai hâte de voir à quel point on va dépenser. Il y a les rumeurs aussi que Pittsburgh est prêt à dépenser pas mal d'argent. On va y revenir aussi. Mais alors, on verra ce que ça va donner. Mais je suis d'accord, on restera pas de même. Il va y avoir quelques mouvements de personnel du côté de Baltimore, Alain. Surtout, bon, tu regardes ce qui se passe dans la division Ouest, l'américaine. Les Yankees vont être de retour. Les Blue Jays vont probablement dépenser encore. Les Red Sox sont là. Alors, si tu regardes passer la parade, Alain, ça marchera pas.
Puis on peut dire la même chose des Angels. Il y a une porte qui s'ouvre. Là. Houston perd de gros morceaux encore. Valdez s'en va. Tu as Altuve qui vieillit. Il y a une porte qui va peut-être s'ouvrir. Seattle va peut-être rentrer dedans à Texas. C'est une équipe qui vieillit, Marc. On l'avait prévu l'année passée. Puis ces gars-là ne partiront pas demain matin. Ils ont des gros contrats. Donc, dans l'Ouest américaine, là, les Angels pourraient peut-être se faufiler. Surtout que Moreno en est probablement ces dernières années comme propriétaire chez les Angels. Là. Puis lui va peut-être vouloir éventuellement.
Et peut-être le retour d'Anthony Randa.
On s'en parlera. Je pense qu'il y a un autre troisième but qui va être là pour la saison prochaine. C'est bon. On s'en parlera. J'avais pas vu venir celle-là. Bon, Marc, il y a quatre joueurs qui ont. Avant de passer aux joueurs autonomes, il y en a quatre qui s'étaient vus offrir l'arbitrage et qui ont accepté. Moi, on s'en était parlé, Marc. Celui que j'étais pas mal certain, c'est Gleyber Torres. Moi, j'aurais été très surpris qu'il ait davantage que ça. Mais de toute façon, l'an prochain, il n'aura pas besoin de passer par ce processus-là. Il va être complètement libre l'année prochaine s'il décide de redevenir joueur autonome. Donc, je pense que ça ne le dérange pas trop. Imanaga et Woodruff, deux gars qui ont fini la saison, disons-le, de façon pas très forte, donc reviennent pour se refaire. Là, Trent Grisham, Marc, est-ce que ça peut changer les plans des Yankees de New York? Parce que leur Bellinger... semblait-il qu'il y avait un intérêt commun, mais si Grisham est dans le portrait, ça veut dire quoi, ça?
Ben, premièrement, tu sais qu'il y a quatre joueurs qui acceptent l'offre de la sorte, c'est un record. Là. Dans la même année, je parle. Là. Écoute, s'il y en a habituellement un ou deux, le maximum par année, là, qui acceptent cette offre-là, parce qu'évidemment, puis juste en passant, là, j'ai vu des titres passer, Beau Bichette n'accepte pas l'offre qualificative. Écoute, c'est vraiment là, c'est de l'administration. On va dire ça de même, là, c'est de l'administration. C'est juste parce que si on le perd, ben au moins on aura un choix, un choix au repêchage. Juste pour
si je peux ajouter.
Oui,
oui. Vas-y, si je peux ajouter, Marc, c'est juste la nouvelle, c'est pas ceux qui ont refusé, c'est ceux qui ont accepté.
Exactement, exactement. Donc, c'est ça. Alors, moi, effectivement, moi, c'est Grisham qui me surprend, en fait, c'est qu'il. Moi, ça me surprenait qu'on lui avait fait cette offre-là. Pour être bien honnête avec toi. Là.
Ouais.
Et là, est-ce qu'on s'est fié à sa saison dernière en se disant, ben là, il y a une grande valeur, quelqu'un va aller chercher, on va avoir un choix en retour. Je ne sais pas qu'est-ce que les Yankees ont pensé, mais qu'il l'accepte, lui, à toute évidence, adore jouer avec les Yankees, veut rester avec les Yankees. Mm-hmm. Je ne sais pas, tu sais, c'est quand même 22 millions, Alain, là. C'est, tu sais, je sais que les Yankees ont de l'argent, mais est-ce que je ne suis pas certain que ça va changer les plans initiaux, mais ça va peut-être changer le budget. Si on veut vraiment garder Bellinger, puis il est dans les plans, ben on va offrir à Bellinger pour le garder. Je ne pense pas que ça va changer les plans à ce niveau-là, mais c'est juste que ça peinture un petit peu dans le coin les Yankees à ce niveau-là.
Oui, ben Marc, je pense qu'on avait la même lecture du marché de Trent Grisham. Malgré la saison qu'il vient d'avoir, je ne suis pas sûr qu'on était pour se lancer à sa poursuite là, dans le marché des joueurs autonomes. Puis Grisham, visiblement, a eu la même lecture. Moi, du côté des Yankees, c'est juste, là, tu ramènes Grisham. Là, Jason Dominguez, quand est-ce qu'on va lui donner un poste partant régulier? Puis si, à un moment donné, tu ramènes Bellinger, mais tu le mets au premier. Ben Rice, t'es pas content de ce qu'il a fait pendant la saison dernière? Est-ce que tu veux te retrouver avec deux receveurs qui frappent de la gauche? C'est pour ça, là.
Non. T'as le jeune Jones, est-ce que tu lui donnes une chance
en plus? Lui, il n'y a pas d'affaire en 3A, Marc. Bon. À moins d'avoir un camp d'entraînement absolument horrible, mais il n'y a plus d'affaire dans le 3A, Spencer Jones. Là.
Fait que, tu sais, ça va. Moi, c'est un drôle de dossier. Je te dis pas que ça va compliquer tellement les choses, mais c'est un drôle de dossier. Puis, effectivement, je pense que tu as raison. L'agent de Grisham, on a fait le tour, puis on s'est dit, ouf, le marché peut-être pas aussi bon qu'on pensait. 22 millions, t'aimes jouer pour les Yankees, on reste là. Mais, tu sais, pour vous dire, c'est un record d'avoir quatre joueurs à l'accepter de la sorte. Je regardais la dernière fois qu'il y a eu trois joueurs, c'était en 2015. Depuis ce temps-là, Alain, c'est un ou deux joueurs. Et partout, évidemment, il n'y en a aucun.
Oui. Moi, je me rappelle. Te rappelles-tu de Francisco Rodriguez?
Ben oui.
Les Brewers de Milwaukee ne voulaient pas le revoir. Tu comprends? C'est pas un gros marché et tout ça. Lui offre l'arbitrage, devient joueur autonome. Oups! Il accepte! Les Brewers étaient pris avec. Écoute,
habituellement, tu y vas avec. Tu sais, un peu comme bon, Beau Bichette. Ou si vous allez plus loin, là, pour les plus vieux, là, rappelez-vous la vente de feu des Expos. Là. On n'avait pas offert de qualificatif à Larry Walker.
Ben oui.
Parce qu'on ne voulait pas qu'il l'accepte, parce qu'on n'avait pas les moyens de le payer. Alors, quand Walker est parti comme joueur autonome avec les Rockies, les Expos n'ont rien reçu en plus. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est souvent le joueur. Tu sais qu'il s'en va sur le marché des joueurs autonomes. Pas dire qu'il part pas officiellement. Il peut revenir et il signe avec ton équipe. Ouais. Mais il y a de l'intérêt un peu partout. Alors que, tu sais, même pour un gars comme Woodruff qui a montré l'année passée, Alain, qu'il était revenu, je comprends qu'il a été blessé, mais des lanceurs sont tellement rares. Un gars qui aurait peut-être pu aller chercher un contrat de 2 ou 3 ans, c'est souvent ce que tu veux faire, chercher un contrat à plus long terme. Il a quand même décidé de rester avec l'organisation. Alors, est-ce qu'il y a eu un effet que, tu sais, lui, il a réhabilité avec l'organisation, il est là depuis longtemps, il voulait rester. Tu sais, il y a un paquet de facteurs aussi dans ces décisions-là. Là.
Oui, absolument. Enfin, ça fait le tour là pour les offres qualificatives. Puis, on va s'arrêter un petit moment. Notre deuxième segment sera sur le marché des joueurs autonomes. On vous invite à rester avec nous parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Il y a beaucoup de joueurs de qualité qui sont disponibles en ce moment. On va vous revenir là-dessus. En attendant, c'est le temps de la question du jour. Notre question qui ne sera pas très, très compliquée. Et comme à l'habitude, c'est présenté par Sylmar Autoville, votre détaillant pour les pneus de voiture et le camion classique et antique. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Du point de vue des Blue Jays de Toronto, ça devrait être quoi la priorité de l'équipe? Puis on s'entend pas nécessairement chez des amateurs de baseball. Certains voient Tucker, d'autres un gros partant numéro 1, d'autres en relève. Bref, vos choix sont probablement aussi bons que n'importe lesquels. Donc, on vous invite à vous prononcer sur notre site Internet. Vous pouvez aller à compte-complet.ca ou encore sur notre page Facebook.
Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lester's. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dog Lester's sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lester's.
Alain, je prends quelques instants pour souligner notre partenaire Plan de Match. Plan de Match, c'est deux boutiques de baseball, une à Boucherville, l'autre à Jonquière. Mais, vous savez, durant l'hiver, la boutique en ligne très active. Alors, allez sur boutiqueplandematch.com. Tous les articles, évidemment, qui sont sur ce fameux site web, vous pouvez commander en ligne facilement. Et ceux qui sont à Boucherville, on peut s'entraîner à l'intérieur durant la période hivernale. Donc, allez-y, il y a des cours privés également. Donc, toutes sortes d'informations, allez voir sur leur site web.
Mais Marc, on va s'ouvrir sur le marché des joueurs autonomes. Tiens donc, je te relance sur la question, notre question du jour. Toi, les Blue Jays devraient se concentrer sur quoi?
Ben, écoutez, je sais que tout le monde parle qu'il faut absolument que Bo Bichette soit de retour. En fait, c'est le bâton de Bo Bichette qu'on veut de retour. On va se dire, là, c'est oui, c'est, je pense qu'il serait bon au deuxième but. Est-ce qu'il peut jouer encore à l'arrêt-court? Bon, les Blue Jays ont quand même Jimenez et ils ont peut-être même Ernie Clement. Ça dépend c'est qui tu veux faire jouer au troisième but. Est-ce que tu mets Bargeau au troisième? Est-ce que tu mets toute ton énergie pour un gars comme Kyle Tucker, par exemple? Et est-ce que Kyle Tucker fait du sens comme frappeur gaucher? C'est sûr que Kyle, si tu regardes tous les joueurs autonomes, le joueur de position, il est probablement un ou deux là, dans les joueurs là, les plus importants, compte tenu de son âge, compte tenu de son rendement. Fait qu'il vient, tu sais, oui, il viendrait aider l'équipe, mais tu sais, assurément que tu veux pas, tu veux. Tu sais, le problème, c'est qu'on a George Springer. Ben, c'est pas un problème, je veux dire, vous allez comprendre que on a George Springer qui peut pas jouer tous les jours en défense.
Ouais.
Puis là, on a signé, faut le rappeler, mais on a signé Anthony Santander l'année dernière. Alors, lui aussi il est là. Il est frappeur ambidex, frappeur de puissance. Il va falloir qu'il joue là, à un moment donné. Alors, tu le mets où? Tu le mets dans le champ, au champ droit? Est-ce que tu le. Tu le mets au champ gauche pour signer un Kyle Tucker que tu mets au champ droit parce que t'as ton frappeur de choix va être plus ou moins autrement George Springer. Alors, c'est pas si simple que ça. C'est ce que je veux dire. Il y a des solutions, par contre. Si c'est Bichette qui est de retour, ben un Barger peut jouer au champ extérieur, même si je l'aime personnellement, je l'ai mis au troisième but.
Oui.
Donc, il y a quand même des options intéressantes. Mais tu sais, il faut qu'un gars comme Santander soit en santé. Au salaire qu'on lui donne, il faut qu'il produise davantage. Et là, et Alain, si tu amènes un frappeur gaucher, tu sais, qu'est-ce que tu fais avec Varsho? Et Varsho, est-ce qu'il perd un peu sa valeur? Est-ce que tu le gardes? Bon, il y a quand même pas mal de scénarios possibles. Inévitablement, il faut parler de lanceur avec les Blue Jays, lanceur partant. Je sais que Yacevich va être là toute la saison, mais est-ce qu'on peut réellement faire confiance à un Berrios l'année prochaine? Pas sûr nécessairement qu'il est dans les plans. Gausman a un an de plus, je pense qu'il est capable d'en donner très, tu sais, d'être un excellent lanceur partant, évidemment. Mais ça reste que, c'est ça. Fait que moi, ça serait plus à ce niveau-là. Je sais qu'on entend même parler le nom d'Edwin Diaz avec les Blue Jays. En fait, tout joueur autonome, là, Toronto est un gros marché.
Oui.
Alors, tu sais, Los Angeles est un gros marché, New York est un gros marché, Toronto est un gros marché. Les Blue Jays avaient la cinquième plus haute masse salariale. Ils vont être encore dans le top 5 l'année prochaine, même si le gros contrat de Vlad Guerrero commence.
Ouais.
Ils ont les moyens. Tu sais, Alain, on l'a dit tantôt, on a goûté à cette série mondiale-là, on a passé si près, on a le noyau encore. On va refaire les efforts. C'est-à-dire qu'on va redépenser, on va essayer d'avoir de dépenser. Alors, ça pourrait aller dans n'importe quel sens. Je pense qu'il va y avoir des priorités au niveau des lanceurs partants, mais parmi les joueurs d'opposition, Alain, ça peut aller dans n'importe quel sens. Alors soyez pas surpris que chaque nom, même un Cody Bellinger encore de retour, son nom peut refaire surface avec les Blue Jays. Fait que c'est ça qui va donner un hiver pas mal intéressant.
Écoute, moi, ma priorité là-bas, ce serait le lanceur partant, le gros lanceur partant numéro un. Dans un monde parfait, ce serait Framber Valdez qui serait la cible numéro un. Par contre, Marc, on en a déjà parlé, ce qui est arrivé en fin de saison, est-ce que ça va faire reculer certaines équipes? J'ai l'impression que ça va faire baisser un petit peu sa valeur. Si Michael King, Marc, est à 100%, moi, je l'aime beaucoup. Je l'amènerai. Suarez, s'il est capable de lancer pendant une saison complète, regarde son rendement depuis le début de sa carrière dans le baseball majeur, là. Il a été très bon à chacune de ses saisons. C'est juste que de lancer 30 départs, c'était ça qui était son défi. Il y a quelques options, mais tu sais, on n'a pas, chez les Blue Jays, je vais parler de la section dans laquelle on joue, là, on n'a pas ce Garrett Crochet. On n'a pas même ce Max Fried ou même Garrett Cole qui devrait revenir. Puis si je vais plus loin, Marc, dans la mesure où il va revenir, on n'a pas de Shane McClanahan. Tu sais, qui n'a presque pas lancé depuis 2 ans. Qui, à un moment donné, va revenir. On espère que ça va être l'année prochaine. On n'a pas cette locomotive-là pour tirer le reste. Gausman s'est bien comporté, mais je ne pense plus qu'il soit rendu là. Donc, moi, je pense que c'est un gros, gros morceau qui manquerait chez les Blue Jays de Toronto. Puis peut-être en relève, t'en dis t'en chercher un. Je sais qu'on a associé Fairbanks et Diaz. Est-ce que Suarez, pour un an, ça pourrait être une autre option? Diaz et Fairbanks, on s'entend, là, c'est les deux plus gros noms pour plus qu'un an. Il y a quelques vétérans qui pourraient intéresser Suarez, Jansen, probablement. Mais je pense que le partant numéro un, Marc, c'est là. Mais je suis d'accord avec toi sur un point. On va être actif, puis peut-être même sur le marché des échanges. Et compte tenu des noms qui ont été mentionnés, moi, je ne suis pas sûr que Dalton Varsho va être avec les Blue Jays au début de la prochaine saison.
Ouais, moi aussi, je suis pas certain à ce niveau-là. Ouais. Avec Bieber, tu sais, Bieber qui a accepté l'offre, ça, c'est intéressant. Ouais. Ça donne quand même une belle profondeur déjà, là. Et si tu ajoutes évidemment un lanceur partant de premier plan, ça va déjà donner une très, très bonne rotation. Mais je reviens au point de Valdez que tu as fait, Alain. Tu sais, on a vu, là, plus que jamais, l'esprit d'équipe, tu sais, il y a quelque chose de fort, là. Dans les deux des trois dernières années, là, tout le monde parle de ça, c'est que, donc, d'amener un gars comme Valdez qui a pas une super réputation, il y a des équipes qui vont être extrêmement prudentes avec un gars comme ça. Il va falloir lui parler, puis si on veut vraiment l'avoir et le mettre sous contrat, il va falloir vraiment être en mesure de lui faire comprendre que là, tu t'en viens ici, mais tu sais, c'est différent ici. Ça peut arriver, là. Ça peut, tu sais, moi, bon. J'ai pas de problème, un gars peut changer. Mais c'est sûr que si sa valeur est moindre compte tenu de ce qui s'est passé, ben il y a des équipes qui vont sauter là-dessus, là. Ça, c'est clair.
Bon, Marc, on va faire le tour de je pense le joueur autonome numéro un, je pense, c'est Kyle Tucker. Tu sais, on regardait la grosse majorité des joueurs autonomes, Marc, disponibles. L'âge commence par un 3. C'est pas compliqué, là. Tucker est une exception qui est tout près de 30 ans. Le plus jeune, en fait, c'est Bo Bichette.
Exact.
C'est Bo Bichette qui serait peut-être le plus attrayant, mais ce ne sera pas comme joueur d'arrêt-court, selon moi, pour l'équipe qui va l'embaucher. Mais je pense, dans l'ensemble, ce gars-là, Carl Tucker, regarde, il va aller chercher le gros lot. Avec qui? Là, est-ce que les Cubs vont délier les cordons de la bourse pour aller le chercher? C'est pas un petit marché, là, les Cubs à Chicago, là. Mais il me semble que ce serait déjà fait dans son cas. Où va-t-il se retrouver? Là, je pense pas que les Yankees, ça va être de ce côté-là. Les Yankees, il faut donner de la place, comme tu le mentionnais, à Spencer Jones. On a déjà Dominguez qui attend, Dominguez qui attend son tour depuis une couple d'années. Là, quand tu enlèves les Yankees, c'est sûr que ton levier principal faire augmenter le salaire, tu l'as plus, là. Donc, il reste quoi pour Kyle Tucker?
Ben, écoute, premièrement, tu as Kyle Schwarber aussi. Je veux juste dire Schwarber parce que c'est deux frappeurs gauchers. Je sais que Schwarber est un frappeur de choix, là. Mm-hmm. Mais ça reste que si une équipe est bien intéressée à un gars comme Tucker, puis on n'est pas capable de mettre sous contrat, on a peut-être Schwarber. Si Schwarber signe avant, là, ça peut peut-être devenir intéressant, là. Mais Alain, bon, t'as pas le choix de regarder les gros marchés. Donc, est-ce que les Dodgers ont un intérêt pour aller un gars comme, tu sais, faut que tu commences de même. Là. L'équipe qui a le plus d'argent, là, ou qui dépense le plus, ben, ce sont les Dodgers. Est-ce que Kyle Tucker pourrait être quelque chose d'intéressant du côté des Dodgers? Bon, on a Teoscar Hernandez qui est encore là cette année. Est-ce qu'on est prêt à changer un Teoscar pour l'amener au champ gauche puis amener un Carl Tucker au champ droit? Je vous dis que ce n'est pas impossible, loin de là. Ouais. Je sais qu'il y a des équipes, j'en ai parlé tantôt, mais des équipes comme les Pirates de Pittsburgh, il semble qu'ils veulent dépenser, il semble qu'ils étaient vraiment sur Josh Naylor. Mm-hmm. Après, Naylor a décidé évidemment de signer son contrat avec les Mariners. D'ailleurs, je pense que c'est une très, très bonne mise sous contrat. Ouais. Naylor a été excellent avec Seattle. D'ailleurs, il a vraiment apprécié son séjour là. Tu vois parfois une transaction en milieu de saison, puis là, soudainement, le gars découvre un milieu extraordinaire, ouais. veut y rester. On peut parler de Shane Bieber avec les Blue Jays aussi, là, entre autres choses. Ouais. Fait que ça peut changer la donne. Mais c'est ça, j'allais dire, les Pirates de Pittsburgh qui veulent être là-dedans. Fait que là, quand une équipe qui veut soudainement être agressive, parce qu'on a eu, écoute, en deuxième moitié de saison, les Pirates ont eu le quatrième meilleur personnel de lanceur partant, là, en termes de rendement. Fait qu'on a quelque chose là, du côté des Pirates de Pittsburgh. Mais là, il faut appuyer les Paul Skins de ce monde. Là. Sinon, Paul Skins, tu sais... Pauvre lui, là, il va rester là pendant une couple d'années.
Ouais.
Alors là, semble-t-il, parce qu'on s'est fait beaucoup critiquer hein, du côté des Pirates depuis quelques années, la liste qui est sortie, là, puis
les revenus, on n'a
pas gagné depuis très longtemps, puis on ne dépense pas l'argent qui... Et là, je parle de l'argent qui est redistribué à travers le baseball. Là, est-ce que ça peut changer la donne, Alain? Est-ce qu'on peut attirer un gros nom comme ça à Pittsburgh? Ça se peut. T'sais, je vous dis pas que ça se peut pas, mais ça se peut. Donc, bien difficile en ce moment de dire dans quelle direction on va aller. Mm-hmm. Puis Alain, je vais ajouter un dernier petit point là-dessus, puis on pourra en discuter, mais c'est sûr qu'il y a une grève qui plane en 2027. Est-ce que ça influence? Est-ce qu'on n'est pas mieux d'aller chercher un Tucker, pas un Tucker, mais un Schwarber pour 2 ans puis donner beaucoup, beaucoup d'argent comme on l'a fait avec des Max Scherzer, par exemple, pour dire, ben là, ou on donne un 7, 8, 10 ans à un gars, mais ça se peut qu'on le perde pendant... Je sais pas, tu comprends? Ouais. Mais c'est un point qu'il faut considérer.
Ce marché-là, Marc, tu as raison, pour 2027, là, certains prétendent que le risque est très élevé, qu'il y ait un arrêt de travail. Moi, ce que je pense, c'est que les gros marchés, ça changera pas grand-chose. Mais effectivement, ça pourrait tenter une équipe d'y aller, tu sais, pour la jugulaire pour 2 ans. Tu sais, Carl Schwarber va avoir combien, là? Il n'y aura pas... il n'y aura pas 5 ans, là, Carl Schwarber, d'après moi. Là.
Non.
Mais c'est quand même... C'est un bâton qui est intéressant pour quiconque va l'avoir dans son équipe. Puis Pittsburgh, effectivement, va encore avoir un excellent personnel de lanceurs l'année prochaine. Jared Jones devrait revenir. Moi, je l'aime beaucoup. Devrait revenir, appuyer Paul Skins, comme s'il en avait besoin, tu l'as mentionné, on a très bien lancé cette année chez les Pirates. Un bâton ou deux de plus, tu sais, si on avait repêché mieux, on serait pas dans le trouble tant que ça, là, pense à Henry Davis, mais, tu sais...
Mais pense à une équipe comme les Reds, tu sais, imagine-toi un Carl Tucker qui joue à Cincinnati, avec un stade qui favorise les frappeurs, pour avoir des statistiques incroyables, lui, à Cincinnati. Oh oui. Les Reds qui sont sur le bord, là, il y a quelque chose. On est en série cette année, il y a Frank Kona qui est là. Est-ce que, tu sais, il me semble qu'il manquait un petit peu de, ce gros coup de bâton-là aussi. Alors, tu sais, on a un bon personnel de lanceurs. Tu sais, Hunter Green était de retour en fin de saison. Est-ce que Saint-Louis peut pas arriver et dire, pas Saint-Louis, mais Cincinnati, dire, hey, écoute, nous autres, là, Carl Tucker, là, c'est lui qui va nous faire tourner le coin.
Ouais.
C'est le fun. Un marché qui est bien le fun à ce niveau-là.
Écoute, je vais parler des releveurs, Marc. On sait qu'aux dates limites de transaction, c'est à peu près ce qui est le plus en demande, des bras en relève. Je pense qu'il y a un consensus, Diaz, Fairbanks, c'est les deux. Une sous-question, Marc, as-tu été surpris que les Rays laissent aller Fairbanks? Je pense que c'est à peu près
11 millions.
Non?
Ben, j'ai senti à la fin de l'année, Fairbanks a eu quelques sorties coup-ci, coup-ça en fin d'année. C'est comme si là, écoute, c'est le gars que ça fait le plus longtemps qu'il était dans l'organisation, là. J'ai comme senti qu'il allait avoir une séparation. Juste pour ça, là, je vois les matchs en fin de saison, puis je sais pas, il y avait quelque chose qui, tu sais, il y a peut-être un moment donné, là, que pour le bien des deux, là, du côté de l'organisation et de Fairbanks, fallait changer d'air. Moi, j'avais comme cette impression-là. C'est pour ça que j'ai pas été surpris. Mais ça reste un releveur de qualité qui devient disponible. Et effectivement, pour pas trop cher, entre guillemets, on aurait pu le garder. Mais je pense qu'il y avait un petit divorce là, qui se préparait à ce niveau-là.
Les Rays ont cette façon, Marc. Tu te rappelles quand on avait liquidé, puis le mot n'est pas trop fort, tous ces frappeurs de puissance là, autour de 2017-2018, sans rien obtenir ou à peu près en retour. Puis ouais. Là, on fait la même chose avec Pete Fairbanks. Moi, j'ai été surpris. Tu prends son option, puis à 11 millions, il y a une équipe qui va le prendre là, dans une transaction, mais notre 40 est déjà plein. On a effectué quelques transactions, Marc. On a quelques bons bras, dont Eric Orsi, qu'on a laissé aller. Moi, je trouvais que c'était un bon bras à travailler, mais le 40 était déjà plein chez les Rays. T'sais, on prépare quelque chose encore, c'est sûr, de ce côté-là, pour nous surprendre. Là.
Mais ça, Alain, tu fais bien de le souligner. T'sais, la liste des 40...
Ouais.
Des organisations qui sont remplies de joueurs d'avenir, là, puis que tu ne veux pas perdre parce que ça fait un petit bout de temps qu'ils sont dans le baseball mineur, puis tu veux les mettre sur la liste des 40 pour les protéger. C'est ça, parfois, qu'il y a des décisions qui sont déchirantes. Puis, d'ailleurs, on a soumis les équipes ont dû soumettre la liste. Et c'est pour ça qu'il va y avoir le fameux repêchage, ce qu'on appelle le Rule 5. Il y a des joueurs parfois intéressants là-dedans, là. C'est clair, parce qu'il y a des équipes qui sont prises avec des décisions là, qui sont... Il y a des fois que tu dis, tu sais, le 39 puis 40e, la différence entre ton 39, 40, 41, 42, là, il est pas énorme souvent, fait que t'as deux joueurs que tu risques de perdre, évidemment, sur ce fameux repêchage.
J'ai vu des noms là-dedans, il y en a un que j'ai pas pu autrement penser à toi quand je l'ai vu, Christopher Morel, justement, avec les Rays, qui est sur cette liste-là. Michael Tolia, il y a 2 ans, qui a très bien fait, ancien joueur de première ronde des Rockies. Il est disponible si quelqu'un veut le prendre. Non, puis d'autres joueurs autonomes vont s'ajouter, Marc. Des joueurs à qui on ne voudra pas donner l'arbitrage. Eux autres aussi vont s'ajouter à la liste des joueurs autonomes cette année, Marc. Moi, j'ai l'impression que ça pourrait faire baisser le marché. Mais là, la question que je vais te poser, je te parlais des releveurs. Après Diaz et Fairbanks, là, j'ai une petite liste devant moi. Là. Puis là, des gars qui ont été numéro 1 quand l'année 2025 a commencé. Suarez à San Diego, pas jeune, mais il est disponible. Devin Williams, ça a été coussi-coussa avec les Yankees. Helsley, on sait comment ça a été avec les Mets, mais c'était le meilleur releveur en 2024 dans la Ligue nationale. Kenley Jansen, il a une très bonne saison, lui, avec les Angels.
Et qui a perdu déjà 19 livres, semble-t-il, depuis la fin de la saison pour se préparer pour l'année prochaine.
Ça fait juste 6 semaines que la saison est finie. Comment il a fait ça? Bon, enfin. il y avait un surplus, j'imagine.
C'est quoi, là? C'était pas la technique Nadeau? C'était quoi le...
Oh, il y avait toutes sortes d'affaires, là. Oui, il y avait ça, entre autres, là, puis il y avait toutes sortes de potions magiques, là. Mais toujours est-il, dans le lot, Marc, est-ce qu'il y en a un, à ton sens, qui pourrait faire l'affaire? Il n'y a pas quelqu'un qui va avoir des contrats à long terme, là, dans ce groupe-là.
Ben, écoute, c'est tous des joueurs que tu as nommés, Alain, qui sont mystérieux, quelque part, tu sais, puis ils ont tous... Mm-hmm. Ils ont tous quelques. Tu sais, on vient de parler de Jansen qui perd du poids. Est-ce que ça va être bon pour lui? Moi, le gars que je ciblerais, je sais que les partisans des Mets vont dire pardon, mais tu sais, Ryan Helsley, là, moi, là, il me semble qu'il coûterait pas si cher que ça. Puis, ouais. Mais là, bon, évidemment, ça a été désastreux, là, puis je pense que le mot est même pas trop fort, là, avec les Mets. Tu sais, ça dépend, là, t'es où? Est-ce que tu es prêt à payer un Edwin Diaz? Ou si t'as pas tu veux pas aller si loin que ça, ben moi je trouve que ça peut être une option intéressante. Lui, c'est clair qu'un changement d'âge, tu l'as dit, Alain, pas plus tard que 2024, c'est un de tes meilleurs releveurs. Fait que ça fait pas 3-4 ans. Là. Fait que ça devient intéressant. T'sais, c'est sûr que tu as parlé de l'âge. Devin Williams, c'est pas vieux. C'était un petit peu mieux en fin de saison, mais est-ce que les frappeurs, finalement, ont pas trouvé la solution face à lui? C'est plus.
Ouais.
C'est plus ça qui m'inquiéterait dans le cas de Devin Williams.
Oui. C'est le même âge, Marc Williams, que Ryan Helsley. Les deux sont du même âge. C'est tous des droitiers. J'ai fait le tour un petit peu des gauchers. Marc, il y a un nom intriguant, c'est Sean Newcomb, qui a été excellent avec les Aces d'Oakland. C'est un autre ancien choix de première ronde. Il y a eu des controverses hors terrain à un moment donné. C'est à partir de là que ça a commencé à mal aller pour Sean Newcomb. Mais là, l'échantillon, tu sais, c'est... Une demi, trois quarts de saison avec les Aces. M'excuse d'avoir dit Oakland, là, on va les appeler les Aces. Écoute, le potentiel est là, dans le cas de Newcomb, mais il y a plusieurs équipes qui se sont cassées la margoulette, dont les Red Sox de Boston. T'en penses quoi, toi, de ce dossier-là? Moi, je le trouve intriguant. Tu parlais de... Parce qu'il était très bon avec les A's.
Ben oui, Alain, mais tu sais, on pourrait parler de Luke Weaver. On pourrait parler de... On pourrait parler d'Iglesias. On pourrait parler... Tu sais, je veux dire, il y en a pas mal, là, des gars qui sont disponibles puis qui sont intriguants. Il y a quelque chose là. Tu sais, Newcomb,
mais potentiellement. Pas beaucoup de pattes gauches. C'est ça, mon point.
Ça, c'est vrai. Mais je reviens à ta question. Tu sais, on a parlé de Williams. Tu as dit qu'à même âge, Williams et puis Haseley. Haseley lance 100 000 à l'heure. Puis là, on revient encore à ça. Alors que la rapide, même s'il y a un très, très bon changement de vitesse dans le cas de Williams, sa rapide est à 94, 95. C'est correct, là. Tu sais, regarde, lorsqu'il était avec les Brewers, là, c'était un magicien.
Ouais.
Ça n'a pas marché du côté avec ça n'a pas marché autant qu'on l'aurait voulu avec les Yankees. Mm-hmm. Mais est-ce que tu prends pas le risque avec un gars qui lance 100 000 à l'heure puis que, par exemple, un Pete Walker qui est l'instructeur des lanceurs par exemple, va dire, ben, amenez-moi-le, moi, à 100 000 à l'heure, on va trouver une prise de balle puis on va trouver quelque chose. Fait que c'est là. Mais il y en a, tu sais, Kyle Finnegan est sur cette liste-là, Alain. je veux dire, il y en a énormément, là. Tu sais, on pourrait Tyler Rogers, Phil Maton, tu sais, Drew Pomeranz, qui n'a pas été mauvais il y a 37 ans, tu vas me dire,
Sean Armstrong, Sean Armstrong, c'est le meilleur releveur du Texas l'année passée. Il a eu sa meilleure saison au bon moment. Moi, je pense que le marché n'est pas très, très favorable aux releveurs. Il y a trop de monde. Puis, tu sais,
parce que
ça va faire
baisser le prix. Les gauchers, là, il n'y en a pas une tonne. Il y a Till Barr, il y a des gars comme Ferguson, mais tu comprends que ce n'est pas des numéros 1. Là. Ça, c'est des gars que tu vas signer là, au début du camp d'entraînement parce qu'à un moment donné, là, tu te dis, j'ai besoin d'une petite patte gauche à gauche. Mais il y a beaucoup de joueurs, Alain. Il y a beaucoup de joueurs sur le marché. Puis tu as raison de mentionner qu'il y en a d'autres qui vont s'ajouter. C'est peut-être moins spectaculaire, Alain, mais c'est ce qui fait peut-être que le marché, de toute évidence, n'a pas décollé. Il n'y a personne qui a signé encore. Là. Mais il y a beaucoup d'options à étudier pour chacune des équipes. Qu'est-ce qu'on veut, puis nos besoins. Et en ayant beaucoup de joueurs, je ne sais pas à quel point ça va être avantageux pour les joueurs,
ce
marché-là. Mais chose certaine, il va y avoir du changement de personnel là, à suivre là, au cours des prochaines semaines.
Oui, c'est le principe de l'offre et de la demande, Marc. Et le marché, j'ai l'impression, est favorable aux équipes cette année. Puis on l'a mentionné, il y a des joueurs admissibles à l'arbitrage. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter au marché des joueurs autonomes. Donc, tu sais, les équipes, surtout... Je parlais des pirates tantôt, vont peut-être attendre de regarder. Bon, regardez voir s'il n'y a pas des choses intéressantes là-dedans. Moi, je pense cette année, là, les équipes sont favorisées compte tenu du surplus de joueurs. Je ne parle pas de l'élite, là, les Tucker va ramasser son argent. C'est lui qui va ramasser le gros lot. Mais pour les autres, là, ça se pourrait qu'on ait des plans A, B ou C, et particulièrement en relève. Bref, ce sera fort intéressant, mais je pense que ça ne bougera pas tant aussi longtemps que les joueurs. S'ajouteront pas ceux qui sont admissibles à l'arbitrage. La carte de baseball de la semaine, c'est une présentation de cartes-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay. Une cote parfaite de satisfaction. Notre dévolu, c'est sur un joueur qui est né à Montréal. Oui, Pete Ward. Peut-être le plus méconnu des joueurs québécois qui ont fait le baseball majeur. C'est un joueur de position. Dans les années 60, il y en a eu plusieurs qui ont fait le baseball majeur dans la cuvée de Claude Raymond. Puis Ward est un. Il y a Tim Harkness aussi qui a été un joueur de position qui a fait sa marque. Ward, très jeune par contre, a suivi son père qui a déménagé de Montréal, ça c'est après la Deuxième Guerre mondiale, jusque dans l'Ouest américain. C'est là où il a vécu principalement. Pete Ward est arrivé dans les années 60. Il a eu une très, très belle carrière. Son père, en passant, lui aussi, c'est un athlète de haut niveau. Il a joué dans le sport majeur, pas au baseball, au hockey. Son frère, il venait de Montréal. Donc, lui s'est adonné au hockey. Il a déménagé dans l'Ouest pour être entraîneur au hockey. Quant à Pete Ward, écoute, c'est un joueur de troisième but qui a eu une très, très belle carrière, courte, avec les White Sox de Chicago. Son MPP+, pour l'ensemble de sa carrière, de 62 à 70, 115. C'est pas très spectaculaire comme MPP global, vous allez me dire, 7,47. Il y a deux facteurs, Marc. Le Comiskey Park, le vieux Comiskey Park, était un cimetière de frappeurs. dans les années 60, tu as déjà vu, ben, tu as déjà lu aussi les années 60, Marc, c'était pas les meilleures années pour les frappeurs. Avec le monticule qui était à 15 pouces là, au-dessus du sol. D'ailleurs, en 68, on a mis ça jusqu'à un niveau quand même exagéré. Bref, les frappeurs de 300, il y en avait peut-être un peu plus qu'aujourd'hui, mais ils n'étaient pas légion. En 68, d'ailleurs, Karl Yastrzemski a gagné le championnat des frappeurs avec une moyenne de 301. Bref, c'était une belle carrière d'un Montréalais qui est peut-être un petit peu oublié, Marc, dans l'histoire du baseball, Pete Ward. Quant à la carte comme telle qu'on vous présente, c'est celle de la série Tops, numéro 85. Puis on peut voir, là, c'était, ben, c'est un joueur étoile en 63, raison pour laquelle on le voit. Ici, c'était au début de sa carrière comme joueur avec les White Sox de Chicago, comme je vous ai mentionné, troisième but. Deux saisons de 20 circuits, c'était à ses deux premières saisons dans le baseball majeur. Deuxième comme recrue de l'année en 1963. C'est notre portrait de la semaine dans le cadre de notre carte de la semaine.
Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball.
C'est le temps de vous inviter, surtout les jeunes, à la lecture. Et nous vous invitons à lire les livres pondus par notre bon ami Bob McDuff. Allez sur son site internet www.baseballbob.ca. Et, ben, écoute, son dernier bébé, c'est un livre à colorier. Évidemment, il y a toute une série, il y a un livre qui est sorti plus tôt cette année. Il y en a 4 au total avant ce livre à colorier. Vous pouvez vous les procurer. Encore une fois, invitation à aller sur le site internet de Bob McDuff, www.baseballbob.ca. Notre profil cette semaine, c'est un des joueurs qui ont été récompensés pour leur travail en fin de saison. Drake Baldwin, le receveur des Braves d'Atlanta. Marc a profité d'une blessure pour commencer la saison avec les Braves d'Atlanta, puis il n'a pas donné le choix aux Braves. On va le garder finalement, puis regarde, c'est la recrue de l'année dans la Ligue nationale, c'est toute une histoire. C'est un bon athlète, originaire du Wisconsin. Marc, on a fait une petite enquête et les chances sont assez élevées qu'il ait joué au hockey contre Cole Caulfield. Ils sont à peu près du même âge et Baldwin était un joueur d'élite au hockey. Donc, il a choisi le baseball, visiblement, a fait le bon choix. Je le verrai avec son gabarit, moi, comme attaquant de puissance ou encore défenseur robuste. Bref, c'est quelqu'un qui s'est démarqué donc dans plusieurs sports. C'est le cas de la plupart des athlètes, Marc, de haut niveau. Il faut bien le mentionner, là. C'est des athlètes d'abord et avant tout et qui choisissent un sport par la suite. Donc, Baldwin, fort mérité, Marc. On était rendu à peu près, je te dirais, à mi-saison, puis on a regardé en disant « Hey, ce gars-là, tu regardes son WAR, c'était parmi les plus élevés dans les recrues. » c'est une très, très belle histoire, Marc. C'est pas sans rappeler celle de Russell Martin.
Exact. Alors, très, très belle comparaison. Mais tu l'as dit, c'est drôle, hein? Lorsqu'un gars comme ça est nommé recrue de l'année, le fameux débat revient encore. Est-ce que jouer d'autres sports de façon compétitive, c'est ce qui aide au développement? Quand je parlais à Baldwin, il va vous dire, hey, moi, le hockey m'a beaucoup aidé dans mon attitude au baseball, oui, dans ma façon de faire. Fait que ça, c'est toujours le fameux débat qui revient alors qu'on tente d'éviter la sur-spécialisation très tôt. Mm-hmm. Là, t'as la recrue de l'année dans la nationale qui a joué au hockey pas mal longtemps puis pas, dans un calibre très, très élevé. Là. Il n'a pas arrêté de jouer à 13 ans. Là. Il a continué. Puis ça, je trouve ça le fun. Mais, t'sais, personnellement, je ne suis pas un expert en la matière. C'est-à-dire, j'ai pas des données scientifiques. Pas mal convaincu que si tu es un sportif à multisport, une bonne partie de ton adolescence, ça va te développer dans le sport que tu vas vouloir éventuellement pratiquer.
Oui, écoute, Marc, il y a quelques joueurs, il y a quelques athlètes dans le baseball majeur qui sont démarqués au hockey. Puis lui, il a été nommé sur l'équipe d'étoiles de l'État du Wisconsin. C'est un État qui est quand même assez relevé au hockey, un peu comme le Minnesota, New York ou Massachusetts. Donc, c'est pas comme s'il avait été nommé dans l'État du Montana ou de l'Idaho. Donc, félicitations à Drake Baldwin, la recrue de l'année. Marc, on l'avait vu venir. On va justement parler un petit peu des honneurs qui ont été distribués en fin de saison. Dans le cas de la recrue de l'année, il n'y avait pas vraiment de surprise dans l'américaine. Je pense que celui qui aurait voté contre Nick Kurtz aurait peut-être eu besoin d'une visite chez le médecin là, pour. en tout cas, peut-être faire revoir son accréditation comme votant. Nick Kurtz, quel début dans le baseball majeur quand même.
puissance pure. c'est beau à voir. Tu sais, je veux dire, lui, c'est pas ce qu'on appelle, c'est pas des wall scrapers. Là. C'est pas des balles qui frappent, tu sais, qui passent toujours juste par-dessus la clôture. Il a frappé des bombes toute l'année, une puissance et une constance, Alain. Une puissance et une constance tout au long de l'année. Non, il n'y a pas vraiment eu de surprise, Alain, dans les choix. Il y a toujours le fameux débat, est-ce que c'est Aaron Judge, est-ce que c'est Cal Raleigh dans l'Américaine, à titre de joueur le plus utile. Mais sinon, pas vraiment de controverse là, dans les choix cette année là, parmi les meilleurs.
Oui. Est-ce que Raleigh est encore ton choix, Marc?
Raleigh était mon choix.
C'était mon choix. Bon, regarde, ça se défend.
Et puis encore une fois, là, je me répète, là, j'adore Aaron Judge, puis dans le sens que, tu sais, je veux dire, il le mérite. Là. Mais mon choix a été vers Cal Raleigh. Puis je peux revenir là-dessus rapidement, mais les receveurs, puis le baseball, c'est ça. Je pense que s'il y a une année où un receveur probablement aurait dû l'avoir, c'est bien l'année dernière. Mais bon, ceci étant dit, rien enlever à Aaron Judge.
Oui. C'est la même chose qu'avec Crochet, Marc. Screwball, là, c'était le débat principal. Crochet, Screwball, ça avait été Crochet. Je pense qu'il n'y a pas grand monde qui aurait. Qui serait sorti en disant que c'était injuste. Là. Puis les deux gérants, c'est les deux mêmes qu'année passée. Donc, la première fois que ça arrive dans l'histoire du baseball.
Tu sais, faut-il le dire, Alain, les votes sont faits avant les séries.
Oui.
Alors, tu sais, même si John Schneider a amené les Blue Jays pas mal plus loin, ça ne comptait pas parmi... c'est un titre pour la saison régulière. Alors, donc, c'est pour ça, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit « Hey, comment ça que c'est pas Schneider? » Puis, tu sais, Schneider a fait du très, très bon travail, là. Il n'y a pas de doute cette année, là. T'sais, même si on l'a critiqué, il a amené son équipe, là. Mais Steven Voigt, tu regardes le classement, là, perdre deux joueurs pour, des raisons hors terrain... Ouais. Dont ton releveur numéro un, puis quand même, en tout cas, tu sais, je veux dire, tout le monde a des bons dossiers, tout le monde a des bons arguments dans ces situations-là.
Oui. Écoute, on va parler des gérants. Il y en avait quand même quelques-uns. Il y avait quelques équipes, en fait, qui avaient des ouvertures. Il y en a encore une mais il fallait évidemment régler chez les Rockies le dossier du deuxième étage. On pourrait y revenir. Mais chez les gérants, ça s'en va d'un côté, puis de l'autre, j'ai de la difficulté à trouver des tendances sérieuses, moi, dans les choix. Certains sont allés pour la continuité, d'autres sont allés chercher dans ce qu'ils connaissaient déjà. Je pense aux Twins du Minnesota avec Shelton. On le connaissait déjà, il avait été dans l'organisation. Dans certains cas, on est allé à l'intérieur de l'organisation sans vraiment expérience. Kurt Suzuki, Craig Stammen. C'est difficile de se retrouver là-dedans. C'est des philosophies d'entreprise, carrément.
Ben, c'est ça, Alain. Je pense que c'est la beauté de la chose. Tu veux pas être pareil. Tu veux pas avoir 30 organisations qui font les mêmes affaires. Ça, je trouve ça très, très bon. Beaucoup d'audace de la part des Giants avec Vitello. Moi, je trouve que ça, c'est audacieux, mais ça pourrait vraiment donner des bons résultats. On sait que ça a été un entraîneur de carrière au niveau du baseball universitaire américain. Donne un gros contrat. Tu regardes, on voit, tu sais, Abernaz avec les Orioles, c'est un jeune de 43 ans, puis Blake Butera avec Washington, 33 ans. Fait que tu vois que là, on s'en va complètement ailleurs à ce niveau-là. Walt Weiss du côté des Braves, ben là, c'est un gars de 61 ans qui est là depuis longtemps, puis puis tu as parlé de Craig Stammen avec les Padres, qui, était joueur, t'as l'impression qu'il était joueur cette année, là, tu sais, tellement.
Oui, c'est en 2023 qu'il a pris sa retraite, là, ça fait 3 ans.
C'est ça. Non, mais tu sais, j'ai l'impression, moi, quand Stammen a été nommé, du coup, non, il joue pas encore, lui.
C'est ça.
Alors, mais tu sais, sans aucune expérience de gérant. Aucune, là, vraiment aucune. Alors, c'est ça qui est le fun. Je trouve ça bien. C'est audacieux parfois. Chaque organisation, chaque directeur général se dit, on veut aller vers cette philosophie-là. On met l'importance sur quoi? Ben, on veut un jeune qui vient juste de jouer puis qu'on veut qu'il apporte ça. OK. Les Braves avec Antopoulos, non, on va avec le vétéran Walt Weiss. On veut poursuivre. On a aimé ce qu'on voyait. Je sais pas. Bon, tu sais. Blake Butera, qui a 33 ans avec Washington. Écoute, c'est une feuille de route très impressionnante. Il a commencé à gérer, là, je pense, à l'âge de 24 ans. Sinon, même avant. Mais il y a du succès partout où il est passé. Mais il n'a que 33 ans. Là. Je regarde la formation des Nationals. Il y a pas mal de joueurs qui sont plus vieux que lui. Là. Alors là, ben, tu sais, il y a un bon, tu pas bon. On en rentre-tu dans le respect? Dans nos... En tout cas. Fait que je trouve ça fun, mais crime malin, c'est la liste est vraiment, vraiment longue. Ouais. Tu sais, Kurt Suzuki, est-ce que c'est il est là parce que c'est le dernier droit avec les Angels? Est-ce que c'est le, tu parlais tantôt avec le propriétaire? Est-ce que c'est. Tu sais, est-ce que c'est.
Ben, il y a la ligne directe avec le grand patron, lui-là, là, parce que c'était l'assistant au directeur général avant d'être gérant. Donc, il y a une ligne directe, lui.
Bon, c'est ça. Puis là, la question que je me pose, c'est que Albert Pujols.
Ben, c'est ça. C'est bon, une des questions que
je pose. Il a fait ses classes au niveau du baseball d'hiver en République dominicaine, entre autres choses. Il a eu une entrevue de près de 9 heures avec les Padres. Puis finalement, on voit un gars qui n'a aucune expérience comme gérant. C'est correct. Je ne dis pas qu'un est moins bon que l'autre, mais ça en dit quoi, Alain, sur le gars qui s'en va se faire les dents un peu?
C'est ça.
Tu sais, je veux dire, Albert Pujols, carrière exceptionnelle, ça ne veut pas dire que c'est un bon gérant, même s'il a une bonne carrière. Mais t'allais faire ses dents en République. Il a connu beaucoup de succès, d'ailleurs, à ce niveau-là. Puis là, il n'est pas considéré dans tous les choix. Tu sais, si jamais tu étais gérant de carrière, puis je pense que c'était l'année, cette année, si tu voulais avoir un emploi, compte tenu de tous les changements qu'il y a eu, là, t'es pas choisi. Ça dit quoi sur ce qui se passe à l'intérieur dans cette planète baseball-là, présentement?
Oui, le rôle de gérant a beaucoup changé, Marc. Le gérant, en fait, dans le baseball mineur, professionnel, là, je parle, là, je pense son rôle, il fait davantage partie du réseau de développement de l'équipe. C'est le but de toute façon, puis je pense qu'il y a de logique derrière ça.
Oui, puis tu sais, ça, puis le fait d'être un rassembleur, puis le fait d'être un gars qui communique bien. On est loin des Gene Mock, hein, avec le choix des gérants que l'on voit présentement, des Bill Verdon de ce monde.
Écoute, tu m'amènes à la prochaine question que j'ai par rapport à l'embauche des Giants. Quand tu es au niveau universitaire, là, puis tu es à la tête du programme de baseball, c'est toi qui fais tout. Tu t'occupes du recrutement, tu t'occupes de.
Tu as de l'aide un peu,
mais c'est toi qui es le grand Manitou quand même. C'est toi qui prends pas mal les décisions qui s'imposent à tous égards. Quelle attitude aura-t-il avec les Giants de San Francisco? Moi, c'est vraiment. Je serais intéressé de savoir. Le rôle qu'on va lui donner. Oui, ben, il est gérant, mais au-delà de ça, est-ce qu'il aura son mot à dire dans le développement des joueurs? Je ne sais pas. Parce qu'il arrive dans un environnement où on le sait, c'est complètement différent, puis il n'y aura pas, évidemment, le dernier mot dans toutes les décisions.
Non, mais tu sais, écoute, j'aime ce que Buster Posey fait présentement. Je vais faire confiance à Buster Posey à ce niveau-là. T'sais, dans le sens, probablement qu'on a répondu à toutes ces questions-là, Alain.
C'est ça. Je serais curieux de savoir c'est quoi.
Exact. Mais si tu es un bon gars de baseball, tu as été bon dans ton développement, tu as été bon dans le recrutement, tu as été bon, je pense qu'on serait fou de ne pas utiliser ses talents à ce niveau-là. Maintenant, est-ce qu'il va aller par-dessus le responsable du développement? Probablement pas. Mais tu sais, qu'on travaille en équipe. Puis d'ailleurs, on a embauché Bruce Bochy comme un Manitou là, qui vient voir qu'est-ce qui se passe avec ça. On s'entoure de monde de baseball, puis je trouve ça très, très bien. On lui a donné quoi, un contrat de 3 ans. Alors, il a fallu racheter son contrat de l'Université du Tennessee. Ça a coûté une couple de millions, ça aussi, là, de racheter son contrat. Alors,
Il est à peu près temps, Marc, qu'on paie nos formateurs. Regarde au football, là, les entraîneurs-chefs là, sont payés grassement. Vous allez me dire qu'ils ont plus de droit de regard sur ce qui se passe sur le terrain, etc. Je suis d'accord, mais je pense quand même, rappelle-toi Wes Johnson quand tu as quitté les Twins du Minnesota parce qu'il gagnait quoi, 3-4 fois plus cher avec l'Université de Louisiana State. C'est pas logique, Marc. C'est pas logique que tu sois payé davantage au niveau universitaire que dans le baseball professionnel où tu es supposé d'avoir la crème, là.
Ouais, je suis très, très, très d'accord avec toi, Alain. On donne pas assez de crédit parfois à des entraîneurs financièrement et même au niveau du succès parfois des équipes. Ouais. C'est le gérant qui prend tout ça va mal, c'est tout toi. Ça va bien, c'est tout toi, mais il y a toute une équipe derrière, là. Ouais. Il y a des joueurs, là, c'est-à-dire qu'il y a des entraîneurs qui font un travail remarquable. Tu as raison. Puis, écoute, imagine-toi si jamais Vitello connaît du succès là, assez rapidement avec les Giants. Ben, ouais. Ça vient d'ouvrir une porte là, à tous ces gars-là de carrière qui font un travail extraordinaire. Écoute, ouais. Allez, moi, j'ai des fils présentement qui sont au baseball universitaire. J'en ai un présentement qui est allé visiter. Ça fait 2-3 collèges qu'on visite parce qu'ils sont intéressés à lui. Fait qu'on va rencontrer les coachs. Puis, hey, moi, tu comprends que je tripe là-dedans. Là. Tu vas jaser avec, tu jases le baseball, tu regardes la philosophie. Il y en a des très bons, là. Puis il y en a qui ont des feuilles de route. Là. Ben, ouais, là, c'est extraordinaire. Ils sont pas connus tant que ça, mais des têtes de baseball. Là. Alors, est-ce que... Ouais. Et maintenant, est-ce que ça peut se transposer dans le baseball majeur avec des gars qui font beaucoup d'argent, puis bon, avec évidemment un marché qui est suivi, puis bon, il y a des preuves encore à faire, mais c'est pour ça que je trouve qu'il y a des équipes qui ont été audacieuses, mais c'est des bons paris, puis ça peut donner un résultat. Tu sais, je reviens à Blake Butera qui a 33 ans. Ça peut être le début d'une carrière extraordinaire là, pour ce jeune-là là, à 33 ans. Puis tu sais, est-ce que Stammen va nous surprendre avec, évidemment, lui qui a été joueur jusqu'en 2023, qui va nous surprendre? Regarde, c'est ça la beauté de la chose, on verra bien. Rappelle-toi, lorsqu'Aaron Boone avait été nommé à la tête des Yankees, il parlait de nos studios de diffusion, Alain, là, il parlait d'ESPN, il partait d'ESPN, puis s'en allait directement sur le terrain, pas passé par les ligues mineures, là, Aaron Boone.
Ouais.
Ça avait été critiqué beaucoup, puis regarde, soit bon ou pas bon selon les partisans des Yankees, il est encore là.
Oui, absolument. Okay. Marc, écoute, ça va être intéressant ça de surveiller toutes ces équipes là, qui ont de nouveaux gérants. Comme je le mentionnais, il y a une équipe encore à déterminer. Ce sont les Rockies du Colorado qu'on devait régler, évidemment, le deuxième étage. Paul DePodesta, un des héritiers de Moneyball là, qui est responsable maintenant du deuxième étage. Donc, on peut deviner un peu où on va s'en aller du côté des Rockies, peu importe qui va être là. Dernière chose, Marc, on a des candidats pour le prochain vote au Temple de la Renommée. Il y a deux noms, moi, qui je trouve intéressants. Il y en a un troisième qui me fait titiller, c'est trois joueurs de position. Là, j'exclus tous ceux qui ont été soupçonnés ou qui ont été pris pour dopage, là, parce que autrement, on les mettrait demain matin, là, je pense, entre autres, Manny Ramirez puis Alex Rodriguez. Carlos Beltran, Bobby Abreu, puis Andrew Jones. On fait quoi avec ces trois gars-là?
Ben, il y en a une couple qui ont passé, tu sais, Andrew Jones, passé bien proche l'année passée, Beltran aussi, là. C'est deux gars, là, Alain, qui... on pourrait les voir passer, Alain. C'est pas une cuvée, tu sais, qui arrive là avec une panoplie là, de noms là. Fait que oui, mais moi je pense que Andrew Jones, Alain. Puis bon, Beltran, il était excellent, puis partout où il est passé, surtout lorsqu'il était acquis, Alain, pour la date limite des transactions. On dirait qu'il amenait toujours son équipe, tu sais, en série, puis il faisait le travail.
Ouais.
Mais moi, ce que j'aime du dossier d'Andrew Jones, Alain, c'est Colin, ce gars-là là, a sauvé. Tu sais, défensivement, il a été tellement bon. Puis pendant longtemps. Puis tu sais, moi, je prône ça. Le baseball, ça joue des deux côtés de la balle, comme on dit. Là, les lanceurs, ça, c'est un aspect, mais les joueurs de position, je parle pas des frappeurs de choix, je parle des joueurs de position. Oh, ouais. Et on suit tout le temps. Ouais, mais il a pas frappé ici ou il a fait ça. Oui, mais il a peut-être pas frappé autant, mais défensivement, ça compensait pas mal. Puis, je trouve que Jones, à ce niveau-là, mériterait sa place au Temple de la Renommée.
Oui, il a un très, très bon dossier. Selon plusieurs, c'est le meilleur dossier de tous en raison de sa contribution combinée défense-attaque. Moi, la carrière de Bobby Abreu, Marc, m'impressionne vraiment. Là, c'est un modèle de constance. Il n'était pas mauvais en défense non plus. C'était pas de la même catégorie. Là. C'était pas un voltigeur de centre. Mais c'était pas... Tout comme Carlos Beltran, d'ailleurs. C'est des joueurs, Marc. Lui, tu le mettais dans la formation, tu savais ce que tu étais pour avoir au bout de la saison.
Oui, puis lui, là, d'amener après prendre les statistiques avancées puis analyser sa carrière, là, c'est là qu'on se rend compte de... de tout ce qu'il était en mesure de faire.
Ouais.
Tu sais, parce que, tu sais, ça a pas, tu sais, c'était un excellent joueur. Tu sais, tu fais bien de le mentionner. Moi, je mets beaucoup, beaucoup d'importance, Alain, sur la constance à long terme. Tu sais, c'est bon lorsque tu as des 3-4 bonnes saisons, là, peu importe, là, de 40 circuits puis de 40 buvoliers. Ouais. Des... Mais quand tu as des saisons, là, tu le fais pendant 12-15 ans avec la constance, avec un rendement, avec. En tout cas, à mes yeux, à moi, ça vaut beaucoup dans le choix d'un joueur.
Dans Brio, il y a 8 saisons de 100 points produits.
Ben, tu sais, c'est ça. Non, mais tu fais bien de le mentionner, là. C'est exactement ça.
Oui, c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. Puis, je te dirais, dans les contemporains là, qu'on a vu peut-être dans les 10-15 dernières années, dans l'approche au bâton, celui que je trouvais qui ressemblait le plus, c'était Shin Soo-Chu avec... qu'on avait avec quelques équipes. Si ce gars-là avait passé sa carrière dans le baseball majeur, Marc, son rendement, faudrait que je fasse la comparaison, je ne l'ai pas fait. Mais tu sais, c'est un gars qui était capable de frapper la longue balle, qui avait une grosse discipline au bâton. Bref, deux joueurs qui ont été très mésestimés pendant leur carrière dans le baseball majeur. Voilà ce qui complète ce balado. Il y avait beaucoup de choses. J'espère que cela va vous plaire. Écoutez, il y en aura d'autres d'ici la fin de la saison parce qu'il y aura d'autres nouvelles, évidemment, qui vont sortir. Je pense que la prochaine étape, Marc, c'est les joueurs qui vont se rajouter à la liste des joueurs autonomes. Et par la suite, ben, comme tu mentionnais, le repêchage des joueurs professionnels, là-dedans, il y a encore beaucoup de joueurs disponibles. Ça va être fort intéressant là, comme entre-saison cette année, de façon
particulière. Écoute, Alain, si tu permets, bon, les assises d'hiver, le prochain balado, on va probablement tout de suite après les assises d'hiver là, qui sont du 7 au 10 décembre. Je sais que les assises, Alain, moi personnellement, j'adore les assises parce que moi-même, j'avais été changé lors des assises. D'ailleurs, le 10 décembre va toujours rester une date pour moi mémorable. D'ailleurs, ils sont du 7 au 10 décembre cette année, mais l'année dernière, là, faut-il se rappeler, Alain, là, parce que ça passe vite une année, là. Mm-hmm. L'année dernière, Willie Adames avait signé son contrat avec les Giants. Max Fried puis Juan Soto, ça s'était passé durant les assises d'hiver. Burger, Crochet, même Andrés Giménez, la transaction qui avait amené Giménez au Blue Jays, c'était durant les assises. Donc, il va y avoir de l'action, là, selon moi, là, au cours des prochaines semaines jusqu'à prochain balade.
Il y a de très, très bonnes chances. On sera à l'affût de toute façon. Écoutez, merci d'être des nôtres. Et comme on vous le mentionne, on va être à l'affût de ce qui se passe et on sera là d'ici la fin de l'année. Il y aura au moins un autre balado pour vous présenter, évidemment, des nouvelles qui surviendront d'ici là. Je vous remercie d'avoir été là. Merci à Martin Villeneuve à la technique. Question de vous présenter de façon convenable ce balado. Et en compagnie de Marc Griffin, on vous souhaite de belles semaines. Je suis convaincu que vous aussi, vous allez suivre de très, très près ce qui va se passer au sein des différentes équipes. À très bientôt.
Balado Compte Complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion. Et Lester's, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931.